bonsoir. La mise en place d'un islam de France fait déjà polémique. Plusieurs voix à gauche s'élèvent pour dénoncer la nomination de Jean-Pierre Chevènement à la tête de la fondation laïque voulue par le gouvernement. Nous ferons le point avec Willy Moreau et nous en parlerons avec notre invité Stéphane Troussel, président socialiste du conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Les États-Unis haussent le ton face à la Turquie. Washington reproche à Ankara de viser surtout les Kurdes dans son offensive militaire en Syrie. Dans ce journal, les explications d'Omar Waman. Dilma Rousseff devant le Sénat brésilien pour défendre son mandat et son honneur. La présidente brésilienne menacée de destitution invoque la légitimité du vote populaire qui l'a porté au pouvoir. Le reportage à suivre d'Anne Vignard. Comment organiser l'islam de France pour éviter les amalgames avec le terrorisme djihadiste? C'est le vaste chantier lancé aujourd'hui par le gouvernement. Bernard Cazeneuve avait réuni place Beauvau le bureau élargi du Conseil français du culte musulman, mais aussi des personnalités politiques, culturelles ou issues du monde de l'entreprise. L'objectif du ministre de l'Intérieur, ancrer l'islam dans les valeurs de la République. Et cela passe, Willy Moreau, par la création de nouvelles structures destinées à assurer le financement de ce fameux islam de France.
Et par financement, Bernard Cazeneuve entend trois thèmes principaux. D'abord, celui de la fondation de l'islam. Elle sera dotée d'au moins 1 million d'euros. En fait, elle reprend les comptes de l'ancienne fondation pour les œuvres de l'islam, 948 000 euros auxquels s'ajoutent des dotations de l'État et des subventions privées. Pour l'instant, les modalités de la mise en place de cette fondation restent floues. Elle doit voir le jour en fin d'année ou en janvier prochain et 11 membres seront à sa tête, parmi lesquels Jean-Pierre Chevènement, mais aussi le président du Conseil français du culte musulman, Dalil Boubaker, ainsi que des représentants des ministères de l'Éducation nationale, de l'Intérieur et de la Culture. Deuxième volet, celui de l'association cultuelle. Là encore, sa mise en place est en cours de négociation. Elle sera autogérée et ne pourra recevoir uniquement des dons français. Bernard Cazeneuve l'a rappelé tout à l'heure, le fait de mettre en place une association loi 1905 permet de mieux contrôler les fonds qui transitent dans cette association. Elle recevra notamment une contribution sur les ventes de produits halal, mais le ministre de l'Intérieur a précisé que cette contribution sera volontaire. Enfin, la question du financement de la formation des imams a longuement été évoquée. L'État financera les formations universitaires avec une augmentation dans les prochaines années des enseignements disponibles. En 2014, seules trois universités en France proposaient des formations sur l'islamologie, par exemple. En 2016, elles seront 15. La formation théologique sera, quant à elle, à la charge de l'association. Séparation entre les églises et l'État oblige.
Willy Moreau, merci. C'est donc Jean-Pierre Chevènement qui devrait présider cette fameuse fondation laïque pour l'islam de France. Mais c'est peu de dire que cette nomination fait polémique, à gauche surtout. On considère que l'ancien ministre de l'Intérieur n'est pas l'homme de la situation. On lui reproche notamment d'avoir appelé les musulmans à la discrétion après les attentats de Nice et de Saint-Étienne-du-Rouvray. Le député socialiste de Seine-Saint-Denis, Mathieu Hanotin, a même lancé une pétition en ligne contre la nomination de Chevènement. On en parle avec un autre élu PS de région parisienne, Stéphane Troussel, président du conseil général de Seine-Saint-Denis. Bonsoir.
Bonsoir.
Stéphane Troussel, vous avez publié un communiqué dénonçant vous aussi cette nomination. Que reprochez-vous concrètement à Jean-Pierre Chevènement?
Écoutez, il y a quelques jours, il appelait les musulmans à la discrétion. J'avoue que j'ai déjà été un peu stupéfait par cette formule. Ce matin, alors qu'il répondait à une interview chez vos confrères de France Inter, dans une formule qui a tout du dérapage et de la confusion. Il expliquait que dans une ville que je connais bien, dans laquelle je suis né, Saint-Denis, qu'il y avait 135 nationalités différentes et que une avait totalement disparu.
Sous-entendu, la nationalité française.
Oui, mais de quoi parle-t-il? De qui parle-t-il? Des gens dont la couleur de peau serait un peu plus foncée? Des gens qui s'appellent Mamadou ou Fatima? Des gens dont les parents ou les grands-parents ou les arrière-grands-parents sont nés de l'autre côté de la Méditerranée? Mais ils sont français. Ils sont, pour la plupart d'entre eux, s'ils parlent des habitants de Saint-Denis, nés à Saint-Denis, comme moi, il y a 46 ans. Et donc, il y a là, pour quelqu'un qui est amené à présider une fondation aussi importante, une confusion sur les notions de citoyenneté, de nationalité, tout à fait inquiétante.
En fait, vous reprochez, vous aussi, à Jean-Pierre Chevènement d'alimenter cette fameuse théorie du grand remplacement?
En tout cas, ça commence à faire beaucoup. Pour quelqu'un qui est appelé à présider une fondation aussi importante, sur laquelle, comme le dit Bernard Cazeneuve, notamment par rapport donc à l'islam. On a besoin dans la société française de sérénité, d'apaisement. À chaque fois que Jean-Pierre Chevènement ouvre la bouche pour expliquer ses positions sur ces questions, il a des dérapages et des confusions qui créent de la polémique. En matière de sérénité et d'apaisement, on fait mieux.
C'est un mensonge, cette histoire de grand remplacement. Ça ne correspond pas à la réalité de votre département,
C'est surtout pas conforme à la réalité de la société française. La constitution de la nation française, c'est justement, ce n'est pas le droit du sang, c'est le droit du sol. Et ce que nous faisons ensemble dans la nation française, dans la société française, c'est justement, depuis des siècles, par des apports successifs de gens venus d'un peu partout, eh bien, nous faisons société commune. Et la République française, c'est d'abord des citoyens qui adhèrent à ces valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire de couleur de peau ou de consonance de nom qui déterminerait la nationalité? Donc, il y a là une grande confusion des esprits, mais et qui va avec le climat du moment qui est insupportable. Donc oui, comme le dit Bernard Cazeneuve, il faut de la sérénité, de l'apaisement pour que la société française enfin admette, comprenne qu'elle peut être, qu'elle doit être la place de l'islam dans la République. Et une place tranquille avec des concitoyens musulmans qui veulent tout simplement éventuellement pratiquer leur religion, mais tranquillement, sereinement, dans une République apaisée.
Et donc, selon vous, Jean-Pierre Chevènement est irrécupérable pour la gauche et la République ?
En tout cas, à chaque fois qu'il s'exprime, il crée de la polémique. Donc, c'est pas le meilleur moyen de créer de la sérénité et de l'apaisement dont parle Bernard Cazeneuve. Donc, moi, je trouve que pour une personnalité comme lui, un ancien ministre de l'Intérieur, faire autant de confusion sur la nationalité française, avec cette déclaration ce matin, en disant qu'il y a une nationalité qui aurait totalement disparu à Saint-Denis, je passe sur quelque chose de tout aussi scandaleux, expliquant que 80% des élèves de l'école primaire à Saint-Denis ne maîtrisent pas la langue française, ça suffit. Ça suffit.
Si Jean-Pierre Chevènement n'est pas l'homme de la situation, qui voyez-vous pour présider cette fondation ?
Mais écoutez, la France, la République française a plein de personnalités qui ont des talents, du talent. Moi, je ne suis pas, je n'ai pas forcément aujourd'hui, ce soir, de nom à proposer. Une ministre, il n'y a pas si longtemps, Laurence Rossignol, expliquait qu'une femme pourrait tout à fait être amenée à présider cette fondation. Je pense que notre pays regorge de talents qui peut justement mener des travaux, des débats, des réflexions de manière apaisée sur toutes ces questions. C'est ce dont on a besoin. L'hystérie collective, politique, l'emballement médiatique de cet été autour de cette question, il faut absolument en finir. Et je ne suis pas sûr, compte tenu de ces déclarations encore une fois de ce matin, Jean-Pierre Chevènement soit visiblement le mieux placé.
Stéphane Troussel, est-ce qu'il faut un musulman pour s'occuper des questions liées à l'islam de France ? Est-ce que c'est une condition sine qua non ?
Je ne suis pas sûr que ce soit une condition sine qua non, d'autant plus que dans l'organisation proposée par Bernard Cazeneuve, il y a à la fois la Fondation pour l'Islam qui est chargée plus des questions d'éducation, de connaissance, de culture, d'histoire de l'islam pour que la société française, qu'on soit musulman, qu'on ne le soit pas, qu'on soit athée, qu'on croit ou qu'on ne croit pas, eh bien, comprennent, connaissent davantage justement cette religion. Et puis il y a la structure, l'association cultuelle adossée à cette fondation, là qui, elle, plus spécifiquement, bien sûr, de mon point de vue, a vocation à plutôt être présidée par quelqu'un de confession musulmane. Mais en tout cas pour la première, ce n'est pas forcément une nécessité, ce n'est pas forcément une condition sine qua non, non.
Stéphane Troussel, président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. En tout cas, Jean-Pierre Chevènement peut compter sur le soutien de Manuel Valls, partisan lui aussi d'une ligne dure face à l'islam radical. Lors du meeting de rentrée de la majorité ce soir à Colomiers près de Toulouse, le Premier ministre a une nouvelle fois dénoncé, je cite, le totalitarisme islamiste qu'il faut combattre et abattre en changeant notre culture de la sécurité. Fin de citation. Manuel Valls qui a aussi voulu donner des gages à sa majorité en attaquant nommément le candidat Nicolas Sarkozy.
Quand on a été chef de l'État, quand on aspire à le redevenir, on ne remet pas en cause aussi violemment l'État de droit. On ne plaide pas pour l'arbitraire. On ne s'assoit pas, comme le fait Nicolas Sarkozy, sur les grands principes de notre Constitution. Vers où Et je pose cette question et à la droite française, et j'interpelle chaque électeur, vers où Nicolas Sarkozy est-il prêt pour l'emporter, à emporter le pays ? On ne peut pas se gargariser à longueur d'interviews et de discours, d'être le seul défenseur de notre identité et vouloir priver les étrangers malades de soins ou empêcher des familles de vivre ensemble. Si je m'en prends à Nicolas Sarkozy comme vous l'avez fait, ce n'est pas parce qu'il serait l'adversaire facile, je ne le crois pas, mais parce que c'est lui qui impose à toute la droite son agenda, ses thèmes et sa dérive. Et c'est donc une menace considérable.
Manuel Valls ce soir à Colomiers, des propos recueillis par Louise Baudet. Les Américains sont en colère contre la Turquie. Washington reproche à Ankara de faire la chasse aux Kurdes en Syrie. Officiellement, l'armée turque intervient à la fois contre l'État islamique et les milices kurdes de l'YPG. Dans la réalité, les combats se concentrent sur les localités tenues par les YPG, les soldats kurdes qui opèrent en Syrie. Le Pentagone appelle les parties belligérantes à mettre un terme au plus vite aux affrontements. On fait le point avec Omar Waman, notre correspondant dans la région.
Depuis le début de l'intervention militaire turque, Ankara avait relativement les mains libres dans sa guerre contre les djihadistes du groupe État islamique et contre les milices kurdes syriennes proches du PKK. Mais les récents bombardements sur les positions kurdes, qui ont fait des dizaines de morts parmi les civils suivis de combats violents, ont provoqué aujourd'hui la colère de Washington qui a qualifié ces affrontements d'inacceptables. Les États-Unis tentent ainsi de préserver leurs alliés, les forces démocratiques syriennes, une coalition de groupes locaux créés pour lutter contre Daesh et dont les Kurdes sont les piliers. Ce sont ces mêmes Kurdes qui ont chassé les djihadistes du groupe État islamique de la ville de Membej le 12 août dernier, Membej que la Turquie menace désormais d'attaquer pour y installer des rebelles qui lui sont favorables. Ankara frappe les milices kurdes en Syrie mais aussi dans le nord de l'Irak où ce matin des avions de chasse turcs ont bombardé des positions du PKK, des frappes qui auraient causé la mort de 20 combattants kurdes selon les médias turcs.
Omar Waman, depuis Beyrouth ce soir, un responsable américain affirme sous couvert de l'anonymat que les milices kurdes ont finalement accepté de revenir à l'est de l'Euphrate pour calmer la Turquie. Partons au Brésil à présent pour évoquer ce temps fort dans le procès en destitution de Dilma Rousseff. La présidente a tenté de se défendre aujourd'hui devant le Sénat brésilien. Elle reconnaît des erreurs, mais elle affirme tenir sa légitimité du vote populaire, car pour Dilma Rousseff, la procédure qui la vise est illégale et elle promet d'organiser de nouvelles élections si les sénateurs lui rendent ses pouvoirs aujourd'hui suspendus. Anne Vigna nous appelle du Brésil.
Dilma Rousseff a donc bien prononcé les termes de coup d'État parlementaire devant le Sénat, malgré les menaces des sénateurs de quitter l'hémicycle à ces mots. Pour la présidente, les sénateurs sont en train de commettre un acte illégal qui va compromettre la démocratie brésilienne. Elle considère qu'elle n'a commis aucun crime qui puisse justifier sa destitution, mais qu'on veut la destituer coûte que coûte depuis sa réélection.
La vérité, c'est que le résultat électoral de 2015, ma victoire, a été une défaite dure pour l'élite conservatrice brésilienne. Ils ont tout fait depuis pour me déstabiliser, moi et mon gouvernement. C'est ainsi qu'il faut comprendre la dure crise que vit le pays depuis 2015. La possibilité de me destituer est devenue, à peine 2 mois après mon élection, le point central de l'agenda politique et médiatique du pays.
La présidente a surtout insisté sur le fait que son gouvernement menait une politique très différente de celle que va proposer Michel Temer. Pour Dilma Rousseff, il ne fait aucun doute qu'en lui enlevant son mandat, les sénateurs mettent fin au projet politique du Parti des travailleurs qui consiste, selon elle, en une redistribution des richesses dans un Brésil très inégalitaire.
Anne Vigna, correspondante de France Culture au Brésil. En Belgique, aucune piste n'est privilégiée ce soir. Après l'incendie qui a touché la nuit dernière l'Institut de police scientifique de Bruxelles, 5 suspects ont été arrêtés avant d'être relâchés en fin de journée. La mort d'un géant de la comédie américaine, Gene Wilder, est décédé aujourd'hui à l'âge de 83 ans. Il souffrait de la maladie d'Alzheimer. Gene Wilder, c'était l'un des acteurs fétiches des films de Mel Brooks. Il a joué les premiers rôles dans certains films mythiques, Le shérif est en prison ou bien Frankenstein Junior. On termine avec la météo. Demain, le soleil revient un peu partout après la dissipation des grisailles matinales. Seul l'extrême sud-est connaîtra un temps plus agité avec des averses orageuses sur la région PACA et sur la Corse. Les températures maximales sont élevées sans être caniculaires. De 25 à 29 degrés en général, plus de 30 degrés sur le Languedoc et la vallée du Rhône. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Annie Brault.